Vous êtes sur RTL.
À 60 ans, il est l'un des hommes les plus riches d'Europe. Son nom donne soif aux amateurs de bière. Alfred Heineken, président des brasseries du même nom, a disparu depuis hier soir avec son chauffeur. Les deux hommes ont été enlevés à Amsterdam. Leurs ravisseurs sont en négociation avec le groupe Heineken qui semble prêt à payer.
Bonsoir, il a kidnappé en 1983 l'un des plus puissants et des plus riches patrons au monde, Freddy Heineken, le roi de la bière. Il a fait de la prison et est devenu chez lui aux Pays-Bas une star populaire, invité des shows télé, posant dans la rue pour des selfies avec ses fans, avant que ses propres sœurs ne le dénoncent comme un parrain impitoyable et cruel qui aurait commandité jusqu'à 25 meurtres. Voici donc ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire hallucinante de Wim Holleeder, l'un des plus dangereux criminels hollandais, surnommé le Nez, en raison de son appendice nasal qui peut faire penser à celui de Cyrano, mais sans doute aussi en raison de son flair, qui lui a permis d'échapper longtemps à la prison, à la justice, d'écarter les concurrents qui pouvaient le menacer, et de devenir riche au point que la légende lui attribue un empire immobilier aux Pays-Bas et en France. Nous revenons ce soir sur la trajectoire du Nez, Wim Holleeder, car il comparé en ce moment à Schiphol dans un tribunal en état de siège, accusé d'une série de meurtres dans le milieu, parmi lesquels celui d'un très proche, son ancien complice dans le rapt du brasseur Freddy Heineken. Procès en appel, Wim Holleeder, âgé aujourd'hui de 62 ans, avait été condamné en première instance à la perpétuité. À l'issue de ce nouveau procès où les menaces, les intimidations contre les témoins n'ont pas manqué, le parrain hollandais attend un jugement favorable. Avec notre invité, nous allons explorer cette vie hors la loi, toute dédiée au crime. Le Nez, Wim Holleeder, le gangster qui terrorise la Hollande. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire du Nez, l'ennemi public numéro 1 en Hollande, actuellement jugé pour une série de crimes sordides dans le milieu, devenu célèbre à 25 ans en 1983 avec le rapt du roi de la bière, Freddy Heineken. Ce 9 novembre 1983, à 18h56 précise, Freddy Heineken, le grand patron de la brasserie qui porte son nom, quitte son bureau du Pentagone, le siège de sa société installé dans un quartier chic et tranquille d'Amsterdam. À la mi-journée, il a déjeuné avec des responsables policiers pour leur faire part d'une tentative d'extorsion de fonds contre la brasserie. D'ordinaire, Freddy Heineken, conduit par son fidèle chauffeur, Abd Oderer, prend la route qui le ramène directement chez lui à Nordvik, une vaste maison à une quarantaine de kilomètres de son bureau. Cette fois, le patron et son chauffeur n'ont pas le temps de monter dans leur voiture. Trois individus masqués et armés les empoignent et les jettent dans une camionnette orange. Celle-ci roule rapidement dans le quartier du port d'Amsterdam, s'arrête dans une partie reculée, occupée par des cases automobiles, des chantiers et des baraquements. Les cellules de Freddy Heineken et de son chauffeurs sont toutes prêtes, cachées derrière une fausse cloison dans un entrepôt de menuiserie. Le gang qui a monté le rapt célèbre l'enlèvement au champagne. Au total, 5 hommes jeunes, des délinquants toutefois chevronnés, mais seulement 2 cerveaux, 2 organisateurs pour ce rapt, les dénommés Cor van Hout et Wim Holleeder, celui que l'on surnomme depuis son enfance le Nez. Freddy Heineken et son chauffeur sont retenus dans 2 geôles préfabriquées disposant d'un lit, menotté, enchaîné au mur. Ils reçoivent 2 visites quotidienne, un ravisseur qui porte une cagoule, qui ne s'exprime que par geste, et livre un sandwich, jambon, fromage et parfois une cigarette. La détention va ainsi durer 3 semaines. La libération sera effectuée contre versement d'une rançon de 35 millions de florins, soit un peu plus de 16 millions d'euros, en 4 devises différentes. Les ravisseurs font entendre la voix de Freddy Heineken qui lit un message codé pour la police. Ici, le hibou, la rançon est-elle prête et la souris, ok pour un départ immédiat. 21 jours après l'enlèvement, la souris, c'est-à-dire une voiture conduite par un policier et transportant la rançon, sillonne pendant 4 heures les Pays-Bas avant d'être dirigée par walkie-talkie vers un pont d'Utrecht. Le sac de billets est jeté dans un caniveau. Le patron d'Heineken et son chauffeur sont libérés. 21 personnes arrêtées, une toute petite partie de la rançon retrouvée. Le menu fretin est sous les verrous, mais manque à l'appel les têtes pensantes de l'enlèvement, les inséparables Cor Van Hout et Wim Holleeder. Bonsoir Stéphane De Vries.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste néerlandais en direct d'Amsterdam ce soir et invité évidemment de l'heure du crime. Vous êtes correspondant, je le précise, pour RTL Pays-Bas. Stéphane De Vries, vous qui connaissez parfaitement ce pays, qui y travaillez, le rapt de Freddy Heineken, c'est un événement considérable, même si on l'a un peu oublié aujourd'hui aux Pays-Bas.
Oui, absolument. C'était l'une des plus grandes histoires criminelles du XXe siècle, je pense, aux Pays-Bas. À l'époque, c'était en 1983. Tout le monde était scotché, paralysé par cette histoire qui faisait la une de tous les journaux, de tous les JT. C'était absolument une histoire incroyable parce que ça passait aussi dans une période où il y avait déjà eu plusieurs enlèvements, donc dans le milieu, mais aussi des gens fortunés. Mais là, Freddy Heineken, qui est vraiment quelqu'un de très connu aux Pays-Bas, une figure emblématique, très proche de la reine, très un roi du jet set, admiré par tout le monde. Cet enlèvement, en effet, tout le monde a tenu son haleine. Ouais.
Bien sûr. Alors c'est un choc, et puis il faut quand même un sacré cran, une sacrée expérience pour pratiquer ce genre de rapt, même si là les gens et l'équipe, on va le voir, est assez jeune. On connaît pas évidemment à l'époque ce Wim Holleeder. C'est son premier fait d'armes important.
Pas tout à fait, parce qu'il faisait déjà partie du milieu amsterdamois dans les années 70, avec des activités dans la restauration et la construction, des activités criminelles aussi. Et puis, quand les affaires ont diminué au début des années 80, le moment était venu de s'enrichir autrement, de faire vraiment un très très grand coup. Et il se trouvait que le père de Holleeder a été le chauffeur privé de Freddy Heineken. Donc Wim Holleeder avait connaissance un peu des habitudes de Freddy Heineken. Et puis, Il a conçu une équipe et puis il a en effet fait quelque chose d'incroyable. Il a enlevé en plein jour, en plein centre-ville d'Amsterdam, Freddy Heineken, à l'époque l'un des hommes les plus riches du pays.
Alors je précise, Stéphane De Vries, parce que vous dites son père était le chauffeur de Heineken. C'est pas ce chauffeur-là qui a été enlevé, évidemment. C'est quelqu'un qui travaillait chez Heineken dans l'entreprise. Et du coup, il connaissait effectivement cette entreprise un petit peu comme une famille en Hollande. Est-ce que une fois qu'il sera plus connu, Wim Holleeder, qu'est-ce qu'il va raconter sur cette affaire Heineken? Il va en tirer une certaine gloire, je pense.
Oui, en effet, mais ça a pris assez longtemps parce que tout d'abord, bien sûr, il a été arrêté, condamné à prison et quand il est sorti. C'est là où a commencé vraiment sa gloire, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont une certaine admiration pour cet enlèvement, même si c'est une histoire sordide. Donc oui, c'est toujours une gloire, d'autant plus qu'une partie de la rançon n'a jamais été retrouvée. Ça fait partie. C'était le début de sa réputation. Son illustre réputation aussi.
Et puis on le rappelle, c'est un rapt qui avait été quand même tout à fait, en quelques mots, mais tout à fait très très bien réglé, minuté. Ils ont fait tourner en bourrique, si je puis dire, la police hollandaise.
Absolument. Et pendant tout ce temps-là, Freddy Heineken était resté à Amsterdam. En fait, il était la police pensait qu'il avait peut-être quitté le pays. Ils ont dispatché énormément de policiers dans tout le pays pour le chercher. Mais pendant ce temps-là, il était à quelques kilomètres en fait du lieu où il a été enlevé. Donc c'était avec une énorme audace de faire ça vraiment sous les yeux, si vous voulez, des policiers.
Holleeder et Van Hout sont jeunes, mais ils sont malins. Ils sont ensuite partis loin des Pays-Bas, en France. Ils ont pris leur quartier à Paris, où ils ont tout l'argent nécessaire pour mener grand train de vie et faire même des investissements. Wim Holleeder, le nez petit truand, deviendra grand. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
L'heure
du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à Wim Holleeder, surnommé le Nez. Premier fait d'arme à 25 ans avec un rapt retentissant, celui du patron d'Heineken, Freddy Heineken. Enlèvement réussi, mais cavale qui va s'interrompre prématurément. Wim Holleeder et l'autre organisateur du rapt Heineken, Cor van Hout, se cachent à Paris sous des noms d'emprunt. Ils vivent ici confortablement et tranquillement. La police néerlandaise n'a pas réussi à remonter leur piste. L'argent de la rançon est en partie investi dans des appartements, des établissements de nuit, des bars à hôtesses. Une partie de l'argent aurait été enfouie pour plus de sécurité dans le bois de Boulogne. Le 29 février 1984, trois mois après l'enlèvement des deux Hollandais, sont toutefois arrêtés par la PJ parisienne. Ils se retrouvent derrière les murs de la prison de la Santé, mais à l'époque, aucun accord d'extradition concernant les enlèvements n'existe entre la France et les Pays-Bas. Les deux compères contestent la procédure, gagnent du temps. Va alors commencer un étonnant périple. La France ne sait pas trop quoi faire de ces deux ravisseurs. Ils sont assignés à résidence dans un hôtel, transférés en Guadeloupe, puis sur l'île franco-hollandaise de Saint-Martin, puis à nouveau la Guadeloupe. Ces allées et venues durent des mois. Holleeder et Van Hout sont finalement transférés en métropole, placés en détention et cette fois extradés en vertu d'un nouveau traité signé entre la France et les Pays-Bas. La plus grosse partie de la rançon est toujours manquante, elle ne sera jamais retrouvée. Mais la bande du rapt de Freddy Heineken est quasi complète. Les deux exilés français sont les derniers à comparaître devant le tribunal. Ils écopent en 1987 de 11 ans de prison et sont libérés en 1992. Ils vont fêter leur sortie lors d'une fête fastueuse à l'hôtel Marriott d'Amsterdam, un orchestre jouant la musique d'une publicité Heineken à leur arrivée. Le rapt de Freddy Heineken a subitement fait changer Wim Holleeder d'envergure. Son nom circule au sein de la pègre, d'autant plus respecté qu'il va s'imposer par son sens des affaires, sa détermination et son absence de sentiment, un ex-ravisseur prêt à gravir tous les échelons du crime organisé. Stéphane De Vries, on vous retrouve en direct depuis Amsterdam dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant pour RTL Pays-Bas. Je viens de raconter l'épisode assez bref d'ailleurs de cette cavale de Wim Holleeder et de son complice et alors très ami Van Hout. On peut dire de Holleeder que déjà il a la graine d'un roi de la pègre. C'est quelqu'un qui sait s'affirmer et qui prend une stature très vite alors qu'il n'a que 25-26 ans.
Oui, absolument. Il a une charme ou il a une sorte de caractère qui impressionne beaucoup de monde. Il a une autorité naturelle et aussi très violente, donc il menace souvent des gens. Il s'impose en effet, et donc c'est là où commence en fait sa véritable carrière criminelle, parce que l'enlèvement de Freddy Heineken était juste le début d'une carrière qui a duré presque deux décennies. Et en effet, est devenu le plus grand parrain des Pays-Bas, même peut-être l'un des plus grands de l'Europe. Oui, mais il a commencé donc en effet très jeune.
Et alors donc vous dites sans doute le plus grand parrain européen. Effectivement, c'est quelqu'un qui est fiché par toutes les polices européennes aujourd'hui. Oui. Son visage est connu et ne serait-ce que son surnom même est tout à fait connu. Dans ce premier temps, si je puis dire, de sa carrière entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait au Holleeder? Il va sortir de prison et tout de suite il va se retrouver dans des petites magouilles, etc. D'immobilier, etc., de finances, surtout.
Tout à fait, immobilier, finances, des coffee shops, bien sûr, aux Pays-Bas, c'est assez courant, la prostitution aussi, et surtout, il continue à faire des affaires avec son beau-frère et aussi son meilleur ami, avec qui il a enlevé Freddy Heineken, Cor van Hout. Au bout d'un moment, ils se disputent, ils se partagent les biens, et puis, en 2003, Cor van Hout, qui est aussi donc le mari de la
sœur de Rolandès.
D'une des sœurs. Mais on va y venir, Stéphane de Vries. Oui. On va pas aller trop vite. On va venir, effectivement, à ce qui va se passer ensuite pour son ami Van Hout. Vous dites Van Hout, pardon, je prononce à la française Van Hout. Voilà. Simplement, parlez-nous un petit peu de ce couple qui fait avec Van Hout, là, au leader. On a l'impression que ça marche très bien entre eux ensemble. En tout cas, ils ont construit leur rapt à Heineken ensemble, sont eux les vrais cerveaux. Ils vont faire beaucoup d'affaires ensemble, tout au moins au début, avant peut-être de se fâcher.
Oui, tout à fait. Ils sont très actifs sur le marché immobilier d'Amsterdam, mais aussi dans la grande banlieue d'Amsterdam. Beaucoup de lieux où il y avait la prostitution, trafic de drogue. En fait, ils sont vraiment, ce sont deux pieuvres qui ont vraiment des bras dans tous les crimes aux Pays-Bas, surtout à Amsterdam à cette époque-là, à la fin des années 90, au début des années 2000. C'était des deux personnes qu'on pouvait pas éviter si on voulait faire des affaires à Amsterdam à cette époque-là. Donc ils se sont imposés vraiment sur le marché, et puis aussi ils avaient une certaine allure, les criminels avec qui ils devaient faire du business avaient beaucoup d'admiration quand même pour ces deux-là qui avaient réussi le rapt, et ensuite ils ont gagné beaucoup d'argent qui n'a jamais été retrouvé.
Ce sont des modèles effectivement pour la jeune délinquance hollandaise, et pour l'instant il faut le préciser, Stéphane de Vries, la police leur fout, si je puis dire, une paix royale. On ne les embête pas.
Non, pas trop. Ils ont été condamnés, bien sûr, pour le rap de Heineken. Mais la police n'a pas, au début, l'impression que peut-être ils n'arrivent pas vraiment à faire une cartographie de toutes leurs activités. Et il faut savoir qu'à la fin des années 80-90, à Amsterdam, c'était une ville où il y avait beaucoup de criminalité, c'était une ville qui n'allait pas très bien, beaucoup de business au noir, bien évidemment lié à la prostitution, aux drogues. Donc c'était vraiment un milieu très spécifique pour cette époque-là, et aussi la police n'avait pas les connaissances de toute cette leur business, leurs affaires. Donc ça a vraiment changé au début des années 2000.
En toute quiétude, Wim Hollieder va ainsi entrer dans le milieu, le vrai, celui de la grande criminalité, de façon très discrète au début, puis s'affirmant peu à peu comme un parrain aux méthodes de plus en plus expéditives. Wim Hollieder, le nez, l'ascension foudroyante d'un truand de haut vol, l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite. C'est le premier extrait du second album de Kimber Rose, ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime où nous reprenons ce soir le parcours du truand hollandais Wim Hollieder, alias le nez, actuellement jugé aux Pays-Bas. Il s'était fait un nom en 1983 avec le rapt de Freddy Heineken, le roi de la bière, et il ne va désormais jamais cesser de faire parler de lui. Après le rapt Heineken et après avoir purgé sa peine, Wim Hollieder est une petite célébrité. Il gravite désormais sans être inquiété dans les cercles de la criminalité en col blanc, celle des investissements douteux, des promoteurs véreux, de l'argent noir, des opérations immobilières ou de la prostitution. Son vieux comparse, Cor Van Hout, fait lui dans le trafic de drogue. Il défraie la chronique et est visé par deux tentatives de meurtre. La troisième est la bonne. Le 24 janvier 2003, il est abattu devant un restaurant d'Amsterdam sans savoir, sans se douter peut-être, que c'est son ami, son ex-ami, en qui il avait toute confiance et qui est aussi son beau-frère, le nez, qui l'aurait fait exécuter. Cette accusation ne sera révélée que des années plus tard, en même temps que d'autres exécutions, celles, entre autres, d'un patron de bar trop bavard qui aurait révélé que la première idée d'Hollieder n'était pas d'enlever Freddy Heineken, mais le prince Bernhard, le propre mari de la reine Juliana des Pays-Bas. Wim Hollieder a peut-être du sang sur les mains, mais il est assez futé pour qu'aucun indice, aucune preuve ne vienne le faire trébucher. En 2006, ce n'est pas pour crime de sang qu'il comparaît devant un tribunal, pour ce que les Hollandais appellent alors le procès du siècle, mais pour extorsion de fonds dans l'immobilier. Entre 2000 et 2004, des millions d'euros auraient ainsi été détournés sous la menace d'hommes de main à travers des opérations de chantage. Troublante coïncidence, une semaine après son témoignage au procès, l'un des principaux accusateurs d'Hollider meurt d'une overdose. Wim Hollider, le nez, est finalement condamné à 9 ans de prison. Stéphane De Vries, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime ce soir depuis Amsterdam, journaliste correspondant pour RTL Pays-Bas. Est-ce que ce procès du siècle, comme on l'a appelé en Hollande, est-ce que c'est là que Hollider finalement apparaît dans toute sa splendeur, entre guillemets, c'est-à-dire dans son rôle de parrain?
Je dirais plutôt qu'il y a encore plus de choses qui sont dévoilées pendant ce procès qu'on le savait déjà. Il était vraiment le Don Corleone des Pays-Bas. Il y avait plein de histoires qui étaient connues sur sa vie, sur sa carrière. Mais lors de ce procès, on a découvert en effet beaucoup de détails et aussi des histoires que l'on ignorait jusque-là. Donc ça a aussi contribué à sa
légende,
sa popularité, si vous voulez. Oui, sa légende, c'est peut-être mieux. Il y a même eu un hebdomadaire qui, à l'époque, lui a proposé de faire une rubrique chaque semaine, ce qu'il a fait aussi.
Oui,
après beaucoup
sûr,
de critiques.
Il va comme ça être très, très populaire, et je vous poserai une question ensuite là-dessus. Mais simplement pour revenir à ce que vous disiez, parce que c'est important, au cours de ce procès, effectivement, beaucoup de choses vont être dites. On va beaucoup parler de ce qu'il a pu faire Hollider. Et au cours d'ailleurs de sa détention, il va être condamné, je l'ai dit, à 9 ans de prison.
Oui.
Et au cours de sa détention, on va lui imputé un premier meurtre. Je crois que c'est un revendeur de drogue. Ensuite, la liste va s'allonger. Qu'est-ce qu'on dit à ce procès? Qu'est-ce qu'on dit de Hollider?
On tombe un peu de sa siège avec tous ces développements, parce que il y a en effet le premier meurtre. Bon, ça c'est pas très étonnant dans ce milieu. On peut comprendre ou condamner, mais en effet qu'il y a des meurtres dans ce milieu, c'est pas étonnant en soi. Ensuite, il y a toute une série. Il y a, en effet, vous mentionniez tout à l'heure le propriétaire d'un café à Amsterdam. Il y a un autre baron de drogue néerlandais qui est tué en Thaïlande. Il y a des hommes d'affaires dans l'immobilier, et souvent avec une très très grande violence. Parfois, il y en a qui sont exécutés littéralement en plein jour à Amsterdam. Donc, ce sont des meurtres d'une extrême violence aussi. Et puis, on souffle qu'il aurait peut-être assassiné 25 autres personnes, mais la police n'en a pas les preuves.
C'est ça. Là, il y a un témoin qui va dire il a fait tuer 25 personnes, mais effectivement, l'enquête ne va pas beaucoup avancer là-dessus. Alors, c'est un procès, on l'a dit, le procès du siècle, c'est un procès à très grand spectacle.
Oui.
Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui veut y assister. Le public est là, et ça sera toujours le cas d'ailleurs pour les procès qui vont suivre. Comment vous expliquez, Stéphane De Vries, tout de même, cette popularité pour ce parrain? Vous avez dit Don Corleone, le Don Corleone d'Amsterdam, c'est bien ça. Pourquoi cette popularité?
Je pense que c'est toujours lié à l'affaire Freddy Heineken, parce que tout le monde connaît Heineken, tout le monde a Heineken dans sa maison, dans son frigo souvent. Donc c'est vraiment le début d'une légende. Ensuite, il est pas antipathique. Il apparaît souvent à la télé, enfin plus maintenant, mais quand il n'était pas encore en prison, il participait à des émissions de télé, des talk-shows. Il écrivait dans la presse. Donc, je pense qu'aux Pays-Bas, il y a une énorme égalité entre les gens. Donc quand il y a beaucoup de contrôle social, mais aussi une égalité sociale, et donc s'il y a quelqu'un qui est vraiment très différent, ça fascine les gens. Et même si c'est quelqu'un de mauvais, ça a été prouvé parce qu'il a été condamné, ça fascine les gens que quelqu'un qui est comme eux, en fait, peut avoir une telle carrière sanglante. Donc il y a une fascination
Oui, ça aurait pu être notre voisin, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, raisonnent comme ça.
Oui, puisqu'on le voit. Bon, pardon, les Pays-Bas, c'est pas très grand comme pays. On le sait, Amsterdam, c'est une ville où tout le monde connaît presque tout le monde. Et on le voit d'ailleurs faire du scooter, de la Vespa, etc.
Oui,
tout le monde se connaît. C'est quelqu'un de familier au leader.
Bah, tout le monde se connaît pas, mais en effet, il s'est déplacé en scooter, et déjà quand il était assez connu, parce que sa tête était dans les médias, on pouvait l'apercevoir parfois en effet dans la ville. Donc c'était une figure qui était vraiment très présente dans Amsterdam. Donc il était aussi très proche des gens au sens littéral, en fait, on pouvait presque le toucher, on pouvait échanger avec lui, et donc ça fait aussi partie de cette fascination.
Wim Hollider a beau être un malfaiteur reconnu, voire un mafieux, un homme déjà soupçonné de meurtre, il est vrai que sa cote de popularité explose. Il apparaît dès lors comme un truand populaire, sympathique et une star médiatique. Wim Hollider, le nez, le parrain des Pays-Bas. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve dans un instant.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur la trajectoire du parrain hollandais Wim Hollider, surnommé le nez. À son actif déjà le retentissant Rapt Heineken, un spectaculaire procès pour extorsion de fonds et des soupçons d'assassinat. Jamais pourtant il n'a été aussi populaire. Le 27 janvier 2012, après avoir purgé les deux tiers de sa peine pour extorsion de fonds, Wim Hollider, le nez, est libéré de sa prison de Rotterdam. Libération avancée pour éviter les photographes et un attroupement de fans. Car depuis quelque temps déjà, la Hollider Mania bat son plein. À la demande de ses clients, la poste hollandaise a ainsi fait imprimer un timbre à l'effigie du nez. Wim Hollider se produit sur les plateaux de télévision. Il apparaît dans un show très populaire, le College Tour. Il sort un disque intitulé « Willem is back ». Willem est de retour. Il tient une chronique dans un journal populaire. Une agence de tourisme lance même un « Hollider Tour ». Un circuit de visite sur les lieux de la vie et des crimes de Hollider. Les Pays-Bas, on serait presque à croire que le plus célèbre de leurs bandits, le nez, serait, comme on dit, rangé des voitures, n'est plus un criminel. Mais il n'en est rien. Tout au contraire, Hollider continue à prospérer dans l'extorsion de fonds et le chantage. Au mois de mai 2013, une vaste opération policière, pas moins de 450 fonctionnaires mobilisés, coince Hollider. Retour en prison. C'est alors que les cadavres accumulés dans son sillage font peu à peu surface. Hollider n'apparaît plus comme un gentil truand, mais comme un effrayant criminel. Il serait le commanditaire de plusieurs règlements de compte. Il menacerait même sa propre famille. Sa sœur Sonia, ex-épouse de son complice Van Hout, est avertie. Si elle parle trop ou refuse d'obéir, il abattra un de ses enfants. Il lui propose de choisir lequel sera tué le premier. Il a déjà menacé l'un de ses neveux, 8 ans, en lui posant un pistolet sur la tempe. Hollider se sent traqué, semble céder à la paranoïa. Sa deuxième sœur Astrid, qui est aussi son avocate, est avertie des menaces familiales. Elle va être la femme qui va faire tomber le parrain d'Amsterdam en l'enregistrant secrètement au parloir de sa prison, opération montée avec deux juges. Pendant des mois, Astrid va ainsi enregistrer les confidences les plus sombres du gangster qui ne se doute pas de rien. C'était lui ou nous ? Il a fallu choisir, dit-elle, j'étais la seule personne en qui il avait confiance, je l'ai trahi. Stéphane De Vries, en direct dans l'heure du crime ce soir depuis Amsterdam, journaliste correspondant pour RTL Pays-Bas. Donc il y a la face gentille de Holleeder, on l'a dit, le populaire Holleeder que tout le monde connaît, etc. Les plateaux télé, les sourires. Et puis alors là, on découvre le méchant Holleeder, ce qui apparaît au cours de cette opération policière et de cette nouvelle interpellation, c'est qu'il a beaucoup de sang sur les mains. Maintenant, on commence à faire le décompte de tout ça.
Tout à fait. Il y a de plus en plus de détails qui sont découverts, des histoires, des gens qui commencent à parler, même des enregistrements audio de certaines conversations de Holleeder avec un journaliste, aussi avec sa sœur, avec d'autres personnes. Donc de plus en plus, son image de gentil est en train de se transformer en image de quelqu'un sans scrupules, quelqu'un de très violent, et vraiment un très très grand criminel sans empathie. Qui tue, qui veut même tuer ses propres sœurs. Alors, donc on découvre ça. Le monstre.
On découvre le monstre, c'est tout à fait ça. Et puis on découvre aussi cette étonnante famille. Racontez-nous, Stéphane De Vries, cette trahison, je n'invente pas les mots puisqu'elle le dit elle-même, cette trahison de Astrid, sa sœur, qui va enregistrer son frère. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en peut plus, la situation est devenue trop tendue, il veut tuer tout le monde dans la famille ?
Absolument, il veut tuer son autre sœur Sonia, qui est donc la veuve de Cor van Hout, son ex-compagnon qu'il a déjà assassiné. Et donc, au bout d'un moment, Astrid en a marre. Donc, elle commence à écrire. Elle est aussi avocate et elle refuse de défendre. Et elle veut en finir avec tout ça. Parce qu'en fait, les trois... La fratrie vient d'une famille très violente, avec un père très violent, un comportement que Holleeder reproduit, et Astrid a envie de rompre avec ce schéma. Donc elle publie d'abord un livre, Judas, qui tourne, qui devient une véritable trilogie. Un best-seller dans le monde entier, il est aussi traduit en français, aux États-Unis, partout, sur les secrets de famille. Et donc ça, c'est vécu comme une véritable trahison par Willem Holleeder, et donc c'est aussi une raison pour lui de menacer Astrid de mort.
Et c'est vraiment elle qui le fait tomber finalement, parce que c'est au sein de la famille que tous les secrets sont retenus, et elle va les livrer ouvertement en faisant des interviews, un livre, vous l'avez dit, et puis surtout en se tournant vers la justice.
Oui, tout à fait. Elle rend public des enregistrements qu'elle a eus avec son frère lors du procès même, donc dans la salle d'audience. Donc c'est là où Willem découvre à quel point elle a trahi. C'est aussi le moment où lui doit réagir à chaud, si vous voulez, parce que personne ne connaissait l'existence de ces enregistrements. Donc elle a vraiment, dans ce sens, trahi, mais c'est aussi elle qui a finalement permis sa condamnation et donc aussi le fait qu'il sera derrière en prison pour le reste de sa vie.
Encore un petit mot, Stéphane De Vries, dans ce chapitre de l'heure du crime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de Holleeder ? Parce que là, il devient quelqu'un de très important, de très, 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 très dangereux. Il est, je crois, dans un pénitencier de très haute sécurité, c'est ça ?
Oui, absolument. Il y en a un seul aux Pays-Bas qui est d'extrême haute sécurité, donc il est toujours transféré là-bas. Le procès a aussi lieu dans une salle d'audience qu'on appelle de bunker, qui se trouve à l'aéroport de Schiphol. Et donc il est constamment gardé, parce que même en prison, il a encore arrivé à gérer ses affaires et de menacer les gens.
Wim Holleeder avait échappé jusque-là aux poursuites pour meurtre. Il n'était qu'un truand financier de haut vol, un parrain en col blanc. Il va donc être jugé très vite pour ses crimes de sang. Wim Holleeder, les deux visages d'un effrayant parrain. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. À tout de suite.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir au parcours du parrain hollandais Wim Holleeder, le nez comme on le surnomme. 36 ans après le coup d'éclat qu'il a rendu mondialement célèbre, le rapt Heineken, Holleeder est jugé pour des meurtres. Au mois de mars 2019, la foule se presse pour assister au procès de Wim Holleeder dans un immeuble en briques, posé dans une zone industrielle d'Amsterdam et qui fait office de tribunal. Le nez, parfois comparé à Al Capone, demeure une attraction en dépit des accusations très lourdes. On lui reproche la mort de 6 hommes liés au milieu et avec lesquels il était parfois très lié, comme Cor Van Hout, son beau-frère, ce truand avec qui il avait monté le rapt du roi de la bière, Freddy Heineken. Ses propres sœurs, toutes deux sous protection policière et qui portent des gilets pare-balles à l'entrée du tribunal, ses propres sœurs témoignent contre lui. Wim Holleeder est condamné à la perpétuité, écroué dans un quartier de très haute sécurité. Il fait appel de ce jugement. Le deuxième procès du nez démarre le 22 septembre dernier. Le tribunal d'Osdorp, transformé en forteresse. Procès toujours en cours et qui va durer encore de nombreuses semaines. Holleeder nie les accusations de meurtre. Il les juge fantaisistes, fondés sur des rumeurs. Il a fait citer des dizaines de témoins à la barre, parmi lesquels des membres éminents de la Pègre ou encore l'ancien procureur et secrétaire d'État à la justice des Pays-Bas. Reste à savoir cette fois quel poids sera accordé aux principales accusatrices, les sœurs de Wim Holleeder, Astrid et Sonia, des femmes menacées de mort. À 62 ans, le nez veut sortir de prison. Il a déjà fait savoir qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Stéphane De Vries, vous êtes en direct dans l'heure du crime ce soir. Notre invité dans cette émission consacrée à Wim Holleeder, le nez, le parrain d'Amsterdam. Vous êtes journaliste et correspondant pour RTL Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on dit de ce procès en Hollande, qui est en cours en ce moment même, qui continue? C'est une attraction, là aussi c'est le procès du siècle, comme on dit?
Oui, enfin une attraction, tout a un peu changé bien évidemment avec le coronavirus, donc il y a moins de public qu'avant, mais il y a d'autres salles où le procès est diffusé, donc il y a un peu moins d'attention pour cet appel, parce que c'est un procès en appel, que le procès lui-même l'année il y a quelques années, mais bien évidemment tous les médias en parlent tous les jours, surtout quand il y a eu des témoignages encore plus intéressants ou inconnus, ça continue à fasciner aussi bien les médias que le public.
Alors, Holleeder, lui, il dit je n'ai rien fait, évidemment, il nie dans son rôle, etc. Il espère être blanchi, être acquitté, relaxé. C'est difficile quand même d'y croire vu les accusations, hein. C'est compliqué.
Oui, en effet, ça va être très difficile. Il dit aussi que sa sœur Astrid a tout inventé pour vendre des livres. Et c'est vrai qu'elle vend beaucoup de livres, mais il y a eu des enregistrements où il plus ou moins reconnaît tout ce qu'il a fait. On sait qu'il a engagé des tueurs à gages pour tuer ses sœurs, donc il y a énormément de preuves. Et il a déjà été condamné à la perpétuité pour 5 meurtres, donc là c'est l'appel. Il est très peu probable qu'il y aura des preuves qui vont le libérer, donc il restera en prison, je pense.
Très peu probable donc effectivement qu'il sorte de prison. Vous venez d'évoquer les sœurs de Holleeder. Parlez-nous un petit peu de ces deux sœurs, Sonia et Astrid. Je crois qu'elles sont sous très haute protection policière, avec tout un dispositif autour d'elles, parce qu'elles sont réellement menacées.
Absolument, et quand Astrid, par exemple, elle donne des interviews pour ses livres, bien évidemment, mais c'est toujours dans un lieu tenu secret, jusqu'au dernier moment. Elle porte des perruques, elle est méconnaissable, donc les deux sœurs vivent sous protection policière 24 heures sur 24. Sa sœur Sonia, bien évidemment, c'est la veuve de Cor Van Hout, donc le grand ami de Holleeder, qui a quand même été assassiné aussi par Holleeder. Donc, elle est devenue veuve à cause de son frère, et sa sœur, son autre sœur Astrid, elle est avocate. C'est elle qui veut casser en fait l'image de Holleeder, qui veut vraiment en finir. Et donc elle a eu ce succès complètement inattendu. Je crois en 2016, c'était l'un des livres les plus vendus en Europe.
Judas. C'est ça, le livre Judas.
Oui, Judas, tout à fait. Oui, qui est maintenant une trilogie. Donc elle continue à écrire. Ses livres sont filmés, sont devenus des séries télé. Donc on parle souvent de lui. Il est toujours une sorte de star, mais maintenant c'est vraiment quelqu'un dont on sait à quel point il a été
dangereux.
Comme je disais tout à l'heure, un monstre.
Un monstre dangereux. Ce que vous nous racontez là, Stéphane De Vries, vous parliez de série télé. Vous nous racontez là une série télé. Cette espèce de puissance de ce parrain qui, même y compris depuis sa prison bunker, sa prison fortifiée, continue à faire peur. C'est ça aujourd'hui encore au leader, c'est quelqu'un qui fait peur, qui a du pouvoir.
Je pense qu'il a, il n'a plus vraiment le pouvoir qu'il a fait au début des années 2000. Quand on regarde le monde, le milieu à Amsterdam, maintenant, sont beaucoup plus de jeunes qui sont encore beaucoup plus violents. Il y a beaucoup d'assassinats dans les rues d'Amsterdam, enfin, de temps en temps, mais c'est devenu un monde beaucoup plus criminel. Et je me demande si lui aurait encore sa place, si aujourd'hui il serait, ou demain il serait libre, est-ce qu'il peut encore gérer le milieu d'Amsterdam? Je ne crois pas, parce que le monde a vraiment changé, et lui, il est toujours, il n'a pas vraiment changé. Et je pense qu'il serait pas vraiment pris au sérieux par les criminels qui gèrent aujourd'hui le milieu amsterdamois. Donc, il aura du mal, bien sûr, il a encore beaucoup d'influence. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur toujours à cause de lui, parce qu'il menace beaucoup de gens, et en premier lieu ses deux propres sœurs.
Merci infiniment Stéphane De Vries d'avoir été l'invité de l'heure du crime consacrée ce soir à la trajectoire exceptionnelle d'un patron du crime, le Hollandais Wim Holleder, le nez comme on le surnomme. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.